Bonjour à tous et bienvenue dans Papa, à quoi on joue, l'émission qui va vous donner mille et une bonnes raisons de jouer avec vos enfants. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Papa, à quoi on joue ? Nous sommes au 92e épisode de ce magnifique podcast et nous allons toujours vous conseiller des bons plans puisque c'est le bon plan pour c'est l'émission pour partager des bons plans en famille et tout ça. Et nous sommes une grande famille puisque je suis avec Arnaud et Jérôme. Bonjour messieurs, est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va aujourd'hui ?
Question existentielle. Pourquoi aujourd'hui ça va ? Eh ben, il faut que ça aille.
Mais justement, je te demande si aujourd'hui ça va.
Alors aujourd'hui, ça va.
Aujourd'hui, ça voilà. Va. Ok. Et Arnaud, toi, comment ça va aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, ça va à peu près.
Eh ben moi, ça va.
Et demain, ça ira mieux.
Eh ben moi, ça va pas du tout.
Ah. Alors, okay. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Jean ? Expliquez-nous.
Poisson d'avril, c'est le 1er avril aujourd'hui.
Ah ouais, la blague, trop fort.
Voilà, non, c'est nul comme intro.
Oui, on peut refaire. On peut la remettre.
Non, ah non, on ne va pas la refaire. J'assume jusqu'au bout, même quand je suis, comme d'accord. Je le disais, très fatigué. J'assume et je garde. Voilà, je n'ai jamais renié une blague. C'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Oui, Arnaud.
Donc j'en déduis que tu vas limiter l'émission pour le premier, du coup.
Oui, puisque ça y est. Les changements sont opérés, ce n'est pas le seul changement, je vais en parler, mais voilà, on passe le premier du mois. Je l'ai fait pour la dernière émission, je l'ai décalé, et maintenant voilà, papa à quoi on joue sortira le premier du mois. On va remplacer papa à quoi tu joues, et dans cette optique, je vous ai proposé, parce que ça me titillait, de compléter un petit peu cette émission à la fin, puisque cette émission elle est consacrée aux jeux en famille, mais on fait pas que ça non plus, on peut aussi se prendre du bon temps pour nous. Et bien avec votre accord, j'ai rajouté à la fin de l'émission une nouvelle rubrique qui s'appelle le coin des parents, où eh bien on va vous parler rapidement d'un truc qu'on fait en ce moment. Généralement c'est un jeu, mais ça peut être autre chose. C'est un film qu'on a été voir au ciné, et c'est pas forcément avec les enfants, c'est pour se faire plaisir, on est entre parents, et voilà, qu'est-ce que t'as fait toi hier, j'ai été enterré mon voisin, etc. Bref, voilà, on va se tenir au courant des petites actualités comme ça qu'on a
le meilleur moyen, chacun, pour voilà. Pas que ça soit détecté.
Exactement. Enfin voilà. Là encore, on est dans le bon plan et dans le partage généreux. Enfin voilà. Donc n'hésitez pas.
Dans les
pas.
Activités ludiques et drôles.
Hein, voilà. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours après avoir écouté cette première mouture, cette première version de la nouvelle version. Et à nous dire ce que vous en pensez, particulièrement toi qui nous soutiens sur Patreon, n'hésite pas à nous dire ce que tu penses de ces petits changements, si ça rend l'émission un peu trop longue ou si finalement, c'est bien. Le but, c'est pas de faire des émissions de 2 heures comme on faisait avec Papa à quoi tu joues, évidemment, c'est juste de faire une toute petite section en plus qui va juste comme ça pour se faire plaisir. Voilà. On va commencer au programme ce mois-ci. On a justement un programme un petit peu spécial, puisque moi c'est pas vraiment un jeu que je vais vous recommander, et puis par contre Jérôme oui, et puis après dans le coin des parents vous verrez, on a plein de choses, mais je vais commencer avec une reco qui est plus une reco matérielle, mais un matériel qui contient des jeux. Messieurs, avez-vous déjà entendu parler de Recallbox ?
Tout à fait. J'ai même pu accéder à ce petit concept qui est, ma foi, bien sympathique, il y a quelques années maintenant.
Et Arnaud, je suppose que non.
Ah, carrément pas, jamais. C'est la première fois que j'entends le truc.
j'aime la veille informative de cet homme.
T'as vu ça, hein? Allez, variante. Hein. Non, moi, je suis top. Non, mais top c'est... veille informatique.
Non, mais c'est bien parce que dans chaque équipe qui donne des informations, il faut un candide. Comme ça, on a là toutes les voix qui se mêlent.
Voilà. C'est bien.
Et donc, en fait, moi, j'étais un peu comme toi, Arnaud. Sauf que moi je savais ce que c'était que la Recall Box, mais ça m'avait toujours fait peur. Donc qu'est-ce que c'est la Recall Box ? La Recall Box, en fait, c'est un système qui a été mis au point par des Français qui permet d'avoir un système d'émulation, multi-émulation. En gros, la version la plus connue de la Recall Box, c'est la version qu'on installe sur un Raspberry Pi.
C'est quoi un Raspberry Pi? Parce qu'en dehors. Ben,
attends, j'y viens.
Une tarte à la priori framboise.
Et qu'on branche sur un écran et puis aller rouler jeunesse. Donc, un Raspberry Pi, justement, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est un micro-ordinateur, un mini-ordinateur, parce que micro-ordinateur, on s'en croirait revenu dans les années 90. Un mini-ordinateur, vraiment, ça fait la taille, allez, on va dire, d'une manette, voire même légèrement plus petit. Et y a des ports USB, un port HDMI, un port mini HDMI, un port audio, etc. Enfin, bref, tout ce qui fait le minimum syndical sur un ordinateur, un RJ45 et tout ça. Enfin, bref, tout ce qu'il faut. Sauf que voilà, c'est tout petit, c'est fanless c'est vraiment un mini ordinateur. Quand tu le déballes de la boîte, si tu prends un starter pack, parce que le truc c'est que en fait il y a la version barbue où tu peux commander toutes tes pièces une par une et les monter sur ton circuit.
Ah bah oui.
Voilà. et donc moi c'est cette image là que j'avais des Raspberry. Sauf que tu peux commander aussi tes starter kits où là t'as quand même un petit peu de montage à faire, c'est-à-dire que moi, les montages que j'ai eu à faire, c'est de prendre la carte, de décoller le petit collant qu'il y a en dessous de décoller le petit collant et les mettre en dessous des radiateurs et les radiateurs au-dessus des chipsets. Voilà, il faut en faire trois et de mettre tout ça dans la boîte. Voilà. Donc, au niveau barbu, ça va, j'étais plutôt bien rasé.
Mais pourquoi ? Mais il n'y a pas l'option où tu as le truc construit ?
Mais si, non mais justement, là c'est quasiment construit, tu peux pas te planter, t'as le mode d'emploi qui tient sur une feuille format carte de crédit, donc alors je sais pas pourquoi.
Mais je comprends pas, c'est oui. Pourquoi le principe de pas l'avoir juste
je ne sais pas, je ne sais pas, mais bref c'est vraiment pas compliqué, t'as pas besoin d'outils, rien, c'est voilà. Et de fait, après, quand tu le démarres, t'as un ordinateur. Si tu le branches sur un écran, tu mets un clavier, tu mets une souris, t'as un ordinateur. Tu me diras si je me trompe, Jérôme, mais c'est un Linux qui tourne dessus,
ouais.
Non ?
Ouais. Donc, voilà, c'est une distribution Unix. Ouais.
Voilà. Et alors, c'est pas un foudre de guerre, faut pas s'attendre. Mais t'as un ordinateur fonctionnel avec un navigateur. Tu branches en RJ45, tu as accès à Internet, bref. Enfin voilà, c'est fonctionnel. Et tu peux remplacer ce système par le Recall Box. Et donc, moi, voilà, j'avais toujours cette image de « c'est pour les barbus ». Eh ben non. En fait, tu prends une carte SD, tu as un petit utilitaire à télécharger sur le site de Recall Box, mais qui est commun à beaucoup de choses de ce que tu peux faire avec les Raspberry Pi. Parce que les Raspberry Pi, tu peux en faire des media centers, tu peux en faire plein de choses. Et de fait, ce petit utilitaire va te formater ta carte SD sur ton ordinateur pour en faire ça mette le système dessus, en fait. Le système Recall Box pour qu'il soit fonctionnel. C'est fait, tu mets ta carte SD dans dans ton Raspberry Pi et tu as ta Recall Box. Tout est déjà installé, ça marche, voilà. Il faut juste, alors même t'as des pseudo-jeux qui sont pas des vrais jeux d'époque parce que problème de droit machin, mais qui ont été programmés sur les différents émulateurs, mais après il faut que toi-même tu remplisses ton dossier ton dossier de ROM, hein, avec les ROM que tu possèdes parce que tu as les jeux originaux et tout ça, toi-même tu sais. Bah ouais, ça marche du feu de Dieu. Donc, j'ai pu. Donc, on a toutes les consoles de l'Amstrad CPC, enfin, tous les matériels jeux vidéo de l'Amstrad CPC ou même avant jusqu'à la PlayStation 1 et la Nintendo 64. Donc, c'est plutôt pas mal. Des petits trucs à faire au niveau PlayStation, au niveau de certains émulateurs, des BIOS à installer dans certains dossiers. Donc voilà, j'ai galéré un peu pour les BIOS de la PlayStation parce qu'il faut pas prendre n'importe lesquels et machin, mais bon, maintenant c'est fait, il y a 4 fichiers à installer.
Ouais. C'est un peu voilà. Chiant cette partie-là.
Ouais, voilà. Mais sinon, voilà, c'est comme à l'époque, sauf que ça tient, mais vraiment dans pas grand-chose. J'y joue en 4K sur ma télé avec les enfants. Je leur ai fait découvrir Super Bomberman. Ma grande, elle a commencé Zelda Link to the Past. Pareil, je lui ai fait découvrir je leur ai fait découvrir les Mario sur NES. Il y a des jeux PlayStation aussi. J'ai été même, je leur ai pas encore proposé, mais ça va venir. J'ai récupéré la ROM. Et donc, je vais leur proposer aussi de Hugo Délire. ça existe.
C'est un peu vieux, là, quand même.
Ça existe, monsieur, sur PlayStation. Okay. Sur PlayStation. Et un jour, on va se faire ça. Voilà. Donc, pour le partage et pour la culture aussi, parce que ma grande a une copine qui est venue à la maison. Et donc, il y avait ma grande, sa copine, et mon plus jeune, ils étaient à trois en train de jouer à Super Bomberman. Et c'était trop bien. Donc voilà, il faut vraiment, si ça vous intéresse, il faut vraiment passer outre cette fausse image qu'on a des Raspberry, parce que c'est vraiment hyper simple. Je repoussais le moment parce que donc je l'avais commandé un petit peu avant Noël et je repoussais le moment où j'aurais dû m'en occuper pour faire ci, pour faire ça. Je me dis non, ça va me prendre des heures, ça va me prendre machin. Mais qu'est-ce que j'ai été bête en fait. Donc voilà, faut pas hésiter. Alors ça coûte le starter kit du Raspberry Pi 4. Donc c'est celui que j'ai qui permet de jouer en 4K sur la télé, machin. Enfin voilà, jusqu'à la PlayStation 1. Sinon le Raspberry 5, il est bien plus puissant, donc il va permettre plus de trucs. Voilà, le Raspberry 4 starter pack, tout ça, tout inclus, c'est entre 99 et 129€ selon les versions que vous prenez, machin. Mais la version de base à 99€, elle est déjà très très bien. Je l'ai commandé, je sais plus sur quel site, mince, je voulais dire le nom du site. Pareil, c'est un truc français, je l'ai plus là, qui sont très très. Très très sympa, et parce qu'il y avait une erreur dans la commande, ils ont livré le mauvais câble HDMI avec la commande, et du coup j'ai zéro souci pour recevoir le bon ensuite. Donc voilà, je chercherai pendant que Jérôme fera sa reco et je vous redirai après. Mais bref, voilà. Alors, s'il y a juste un truc pour allumer et éteindre le Raspberry Pi, en fait il faut le brancher et le débrancher. Il n'y a pas de bouton on-off, donc c'est un peu déroutant. Oui. Au début. Alors tu peux faire un shutdown sur le Recalbox, t'as une commande de shutdown, mais pour le remettre en route, il faut le débrancher et le rebrancher. Donc voilà. D'accord. Mais voilà, donc voilà, c'est Recalbox, c'est français, et de toute façon, bah oui, mais je suis bête, j'ai mis le lien sur les notes de l'émission avec le le magasin, c'est sur Kubi, Kubei. Et donc voilà, le starter pack là, il est à 97,20. Donc voilà, si je vous conseille ça avec entrain et voilà. Arnaud, je suppose que tu as des questions en tant que néophyte.
Non, ça a l'air d'être la question, c'est est-ce que je vois que c'est la prise, est-ce qu'ils prennent quoi comme prise? Par exemple, si on voulait mettre ça sur du 120 volts 60 Hz ici, est-ce que ça fonctionne?
Je sais pas. C'est
toi, tu sais pas, attention, tu sais rien alors.
Non, mais c'est c'est une Alim, la Alim, elle est pas intégrée dans le boîtier. C'est une
Ah,
alum
d'accord, donc
externe.
t'as quand même un transfo, quoi. Donc, a
Ouais.
priori, le
Ouais.
transfo doit pouvoir.
C'est ça. C'est une alum
Ok.
externe. Donc, non, non, mais voilà.
Faudrait que je vois, mais.
Ouais,
Mais
renseigne-toi,
après, c'est
mais.
parce que au niveau des télécommandes, etc., parce que tu dois avoir des longs fils. Enfin, est-ce que tu peux connecter
C'est en
des
Bluetooth.
sans fils? Ok, tu peux connecter des sans fils.
Ouais. Là, il joue avec les manettes de la PS4.
Okay, parce que justement, j'ai à un moment, il y avait Nintendo qui avait fait une Super Nintendo, tu sais,
Oui.
toute mini, là,
Ouais, bah
avec
oui.
plusieurs jeux. Sauf que le problème, c'est que c'était du filaire. Et tu te retrouves
Ah
avec
ouais, non mais.
des manettes
Non, non,
qui font
mais.
1,5 m, donc devant l'écran, t'as tout pété à 2 mètres de l'écran, là.
Ouais, non
Enfin,
mais
c'est.
clairement, le Raspberry Pi avec la Recalbox, t'as Nintendo Mini, t'as SNES Mini, machin, ça vaut que dalle. Alors, je précise que il y a tous les trucs qui vont bien avec le save state, le defrost, machin. Donc, on peut, il n'y a pas besoin d'utiliser les saves qui sont sur les ROM. On peut sauvegarder et recommencer à foison. Donc, par exemple, quand on a joué à Donkey Kong Country, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu de la difficulté de Donkey Kong Country.
Je me rappelle, c'était
Bah, n'étant pas
pas
un
déconnant,
NSX,
non?
non.
Ah, mince. Enfin, ça pouvait être assez rotor, notamment quand on avançait dans l'aventure. Par exemple, les niveaux avec les wagonnets dans les mines, parfois c'était au poil de pixel près. Voilà, il fallait se retaper tout le niveau, machin. Là, juste, tu vois que tu as passé un moment un peu chaud, et ben, tu fais un save state. Et donc, quand tu perds, tu recharges ton save state. Et c'est immédiat, tu recommences là où tu as fait ton save state, quoi. Donc très très bien. C'est vraiment zéro, zéro défaut. L'interface, elle est remplie de clins d'œil. En fait, quand la Recalbox démarre, ça fait toujours référence à une intro. Donc, EA Sports, l'intro de la PlayStation. Il y a toujours une référence et je les ai pas encore toutes vues. Il y a des petites musiques de fond qui sont aussi des références à certains jeux. Voilà, c'est vraiment très 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 très, très bien. Grand bravo à l'équipe qui est derrière Recalbox parce que c'est un super super super. Voilà.
Ok.
Jérôme.
Je me mettrai,
Oui.
je mettrai juste pour finir sur ton petit sujet quand même des petits.
Oui, vas-y, vas-y.
Des petites disclaimers, on va dire des choses comme ça, parce qu'aujourd'hui, en fait, toi, tu l'as testé. Moi, je l'ai testé pour faire le comparo il y a peut-être 10 ans.
Ouais.
Donc, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Hein. Ça a énormément évolué, la Recalbox. Non, parce que toi, moi, typiquement, la Bluetooth, ça marchait pas à l'époque.
Ouais, c'est ça, oui.
Les manettes PS4 n'étaient pas reconnues non plus. Donc, toi, il y a eu beaucoup de choses
Ouais.
qui ont été améliorées. Donc, ça, c'est top. Et je sais que le mec qui est à l'origine de Recal, en fait des live Twitch régulièrement. Donc, si vous voulez aller le voir, il répond à des questions, il tient à jour des sortes de FAQ sur l'avancement du projet, sur ce qui va sortir, sur plein, plein, plein de choses. Donc, c'est assez intéressant d'aller le voir, des
Oui,
fois.
chaîne YouTube aussi, c'est là où j'ai glané l'info pour pouvoir jouer à plus de 2 sur Super NES.
Voilà.
Donc.
Donc, il y a quand même pas mal de petites choses. Par contre, effectivement, la partie. Enfin, si vous achetez un Raspberry pour faire une Recalbox, c'est ultra simple. Effectivement, je te rejoins là-dessus. On met l'espèce d'ISO, enfin c'est pas un ISO, mais l'espèce de petit
Oui.
programme dans la SD, ça fait tout seul, ça se décompacte, ça s'installe, et vas-y, roule, c'est facile. Si malgré tout, vous voulez aller plus loin, parce que tu parlais de faire plein de choses avec un Raspberry, c'est pas du tout aussi facile.
Non,
Je vous préviens, tout de suite. N'écoutez pas Jean qui dit ouais, c'est la fête, tout ça. Non, non, non.
non. Non, non, non,
Le
mais.
Raspberry, au départ, le Raspberry, il faut quand même se rappeler que c'est un ordinateur qui a été fait. Alors ça s'est vachement. En bourgeoisie, je dirais, parce qu'au début, c'était pas ces tarifs-là hein, sur un Raspberry, les premières générations. Mais c'est un PC au départ qui a été créé par une fondation pour mettre à disposition un petit ordinateur ARM pour faire de la programmation dès le plus jeune âge, en fait, quoi, pour que les écoles achètent ça. Et aujourd'hui, effectivement, bon, ça s'est amélioré. Donc, forcément, comme les composants sont plus véloces, il y a plus de mémoire, il y a plus de ports, il y a plus de tout, pour la faire simple. Effectivement, on peut simplement faire un Recalbox. Moi, je sais que j'avais utilisé mon Raspberry aussi pour tester des solutions de domotique avec Home Assistant, par exemple. Et ça marche aussi. Mais c'est déjà un peu plus chiant parce qu'il
Oui, bah
faut installer
oui.
soi-même tes trucs, faut brancher le Wi-Fi, mettre le bon pilote du Wi-Fi. Enfin bon, c'est un peu plus Un peu plus de fois galère. Mais c'est une très bonne solution pour faire une recall box et avoir ce goût du néo-rétro, comme c'est beaucoup la mode. Après, tu disais, comme à l'époque, je mettrais moi aussi là-dessus, mais ça c'est plus mon côté pinailleur, un bémol dans le sens où ça n'est que de l'émulation. Et du coup, tu ne retrouves pas dans les jeux certaines features que tu pouvais avoir et qui étaient liées à la problématique matérielle de l'époque, la problématique hardware de l'époque en fait. C'est-à-dire que tu avais des jeux, par exemple, où tu avais des fois des baisses de framerate qui étaient prévues dans le jeu pour fonctionner, parce qu'en fait, les mecs savaient qu'à ce moment-là, il y avait trop de sprites à afficher. Ouais. Donc, tu avais une baisse de framerate, et en fait, il y avait un développement qui était fait pour que, à ce moment-là, peut-être que tu es un monstre, un truc, un piège, un machin qui se déclenche, toi, et c'était intégré dans le gameplay. Mmh, avec la Recall Box, tu n'auras pas ce truc-là, en fait. Le truc est tellement puissant pour les anciens jeux que, en fait, ça sera toujours 60 FPS ou un truc comme ça, toi. Il n'y aura pas, trop d'histoire, quoi. Et j'avais testé, moi, des versions, donc PS1 et Saturn à l'époque, où c'était une tannée, hein, les BIOS, tout ça, je te rejoins là-dessus. Oui. Et par contre, comme tu étais dans les premiers jeux en 3D, moi, je me souviens que sur la télé, c'était souvent une bouillie de pixels, en fait, parce que j'avais pas une 4K, j'avais qu'une télé normale, donc est-ce qu'ils ont amélioré le module d'émulation, c'est possible? Mais moi, à l'époque, c'était vraiment une grosse bouillie de pixels et ça ressemblait pas aux jeux que j'avais joué. Autant tous les jeux 2D, Saturn, SNES, machin, mais là...
Pour les jeux 3D, moi, j'ai testé vite fait Micro Machine, par exemple, des heures et des heures de fun. C'est très lisible. J'ai retrouvé le Micro Machine.
Ok. Donc ça c'est cool, ils ont fait des améliorations, donc voilà, c'était juste deux trois petites choses que je voulais ajouter de mon expérience en fait par rapport à la Recall Box. Mais je pense qu'aujourd'hui effectivement ça serait rigolo que le cas je passe voir ce que t'as fait et que je puisse tester pour voir l'évolution, quoi.
Et petite parenthèse en fait, donc là on parle de Raspberry Pi, mais il existe aussi une Recall Box version PC, c'est-à-dire que vous pouvez installer aussi un truc sur votre PC. Donc il y a plusieurs versions de Recall Box comme ça, et donc moi en fait j'avais imaginé, parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Shadow, mais vous savez que j'ai une Shadow Box et les Shadow Box vont être ne sont plus supportées. Et le but était de pouvoir avoir ce Raspberry Pi en tant que Shadow Box. Et ma Shadowbox en tant que Recallbox. Sauf que pour l'instant, j'ai toujours pas fait le switch, parce que la Recallbox elle marche très très bien avec le Raspberry Pi. Donc j'ai pas pu encore tester la version PC, mais il y a plusieurs versions. Donc de toute façon, sur le site de Recallbox, tout est expliqué. C'est vraiment le ultra simple maintenant.
Ils font même, je crois, maintenant des versions. Genre ancienne Game Gear ou ancienne Game Boy, des trucs comme ça, où tu peux mettre une sorte de Raspberry un peu spécifique et tu peux l'emmener partout et tu as un écran LCD, tu peux jouer. Un truc comme ça, je crois, maintenant qu'ils ont fait aussi.
Oui, c'est vrai. Voilà, Jérôme, éloigne-nous un petit peu des écrans.
Ouais, alors moi, je vais vous parler d'un jeu dont vous... En fait, vous savez pas que vous le connaissez, mais vous le connaissez en fait. Il y a eu une espèce de warp dans le métaverse Papa à quoi on joue.
Non, c'est un multiverse. Voilà, c'est oui. Il y a eu un monde où peut-être
il y a eu un monde.
Connu,
il y a eu à un instant donné une fissure, une séparation des univers. Et vous n'avez pas pris le bon embranchement et vous n'avez pas entendu parler de ce jeu. Donc, je vais vous reparler d'un jeu que j'ai déjà présenté il y a quelques temps, qui s'appelle One Deck Dungeon, la forêt des ombres. Et qui est un tout petit jeu de cartes, donc c'est une toute petite boîte pour faire plaisir à Arnaud quand il part en vacances. Le seul truc qui fera peut-être pas plaisir, c'est que c'est fait pour jouer de 1 à 2 joueurs. Alors si on achète deux boîtes, on peut jouer jusqu'à 4, mais c'est de 1 à 2 joueurs pour des parties qui sont pas très longues. C'est une trentaine de minutes, peut-être 45 les premières si vous perdez un peu le temps avec les mécaniques. Et ça va être un jeu d'exploration de donjons, comme j'avais déjà présenté... c'était quoi l'autre que j'avais présenté? Je ne sais plus. Je réfléchis, je vais retrouver, c'est pas très grave. Donc vous allez incarner des aventuriers qui vont descendre dans un labyrinthe et aller au bout pour affronter le boss du donjon et revenir en glorieux vainqueur. Comment ça se présente? Eh ben en fait, c'est, comme je vous l'ai dit, un petit jeu de cartes uniquement. Et il y a des cartes et des dés, pardon. Il y a beaucoup, beaucoup de dés et beaucoup de cartes. Et en fait, vous allez incarner donc un aventurier, donc vous allez choisir. Alors c'est coop, je ne l'ai pas précisé, mais je le dis tout de suite, c'est coop. Parce que c'est tout seul, c'est mieux que sans c'est coop. Et quand vous jouez à deux, c'est aussi coop. Savoir que si en fait un des aventuriers meurt, c'est perdu pour tout le monde. Voilà, ça c'est posé. Comment ça va se passer? Vous allez avoir des cartes, alors c'est des cartes format standard, je crois. Il faudrait que je vérifie, parce que je ne les ai pas sleevées, moi, mais je pourrais vous dire pour les aficionados. Et en fait, chaque carte va avoir un recto qui est unique, à savoir une porte de donjon, une porte en bois, là, comme on voit dans tous les grands classiques de Heroic Fantasy. Et de l'autre côté, vous allez avoir deux possibilités, soit vous allez avoir un monstre, soit vous allez avoir un piège. J'exclus les cartes début et fin de donjon qui sont des escaliers, mais on s'en fout. Comment ça se passe en fait? Bah, c'est très simple. Au début de votre tour, vous allez devoir explorer le donjon. Donc en fait, vous allez simuler le fait que vous avancez. Donc vous allez prendre votre paquet de cartes avec les portes, donc face recto, et vous allez les mettre vers vous. Et en fait, explorer le donjon, ça va vous coûter des cartes. Donc vous prenez deux cartes de ce paquet et vous les défaussez. Après, vous allez arriver devant une porte. Comme dans tout bon donjon, au bout d'un couloir, il y a toujours une porte. Sauf que là, c'est un donjon un peu plus massif. Et vous n'arrivez pas au bout d'un couloir, mais dans une sorte de vestibule où vous allez avoir quatre portes devant vous. Et il faudra choisir une de ces quatre portes et, en se faisant, retourner du coup la carte que vous aurez choisie et derrière laquelle vous allez avoir, du coup, comme je vous l'ai dit, soit un monstre, soit un piège. Deux possibilités, affronter le monstre ou déjouer le piège. Ça me paraît assez classique dans les mécaniques. Je vais rien vous apprendre. Et pour ce faire, en fait, il y a en fonction du choix de ce que vous aurez. Donc, si vous avez un monstre, par exemple, vous allez voir sur les cartes des monstres, vous allez avoir des carrés ou des rectangles avec des couleurs. Chaque couleur va correspondre à la couleur d'un dé que vous aurez. Et pour remplir les cases, vous allez avoir non seulement des couleurs, mais en plus des chiffres 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, il faudra le jeter des dés. Remplir les cases avec au minimum la valeur du dé par rapport à ce qui est écrit sur la carte. C'est-à-dire que si vous avez une case, un carré bleu, en fait, il faudra avoir sur un de vos dés bleus au moins 4, 5 ou 6 en valeur de dé. Donc, à suite, comment vous allez faire? Vous allez me dire, vous allez voir, enfin, vous allez me dire, pardon, comment on fait pour avoir les dés? En fait, c'est en
Et
fonction de
comment on
vos
fait pour
personnages.
avoir les dés?
Merci, Jean. En fait, sur les persos que vous allez choisir, en fait, chaque couleur de dé va représenter une caractéristique, à savoir la force, la magie, la dextérité et je sais plus quoi. Et en fait, si vous prenez le guerrier, vous allez avoir plus de dés bleus que de dés de magie, qui sont les jaunes, je crois. Si vous prenez le magicien, vous aurez forcément à l'inverse beaucoup plus de magie que de force, etc., etc. Ce qui fait que, comme vous allez jouer à deux, par exemple, et ça va être à vous de combiner les personnages pour que ça soit complémentaire et que vous ayez un maximum enfin de possibilités
De possibilités.
de versatilité sur le choix des dés. Et voilà. Et quand vous avez un piège, et ça fera la même chose. Vous aurez soit généralement éviter le piège, soit détruire le piège. C'est l'un ou l'autre. Et c'est pareil, il faudra remplir les conditions des cases de couleur sur la carte pour comment dire, triompher du problème. Une fois que vous avez fait ça, votre carte, en fait, elle va vous servir à plusieurs choses. Ça va devenir une carte de butin, comme dans un jeu vidéo, et cette carte, en fait, elle va avoir potentiellement trois possibilités. Soit vous allez pouvoir vous en servir pour équiper vos personnages, et auquel cas, en fait, vous allez améliorer vos compétences, parce qu'il y a des petites iconographies, mais ça, vous verrez quand vous verrez les cartes, c'est un peu compliqué de l'expliquer à l'audio. Donc vous allez pouvoir équiper les cartes de butin, ce qui va vous rajouter peut-être un dé jaune, un dé rose, un dé vert, un dé bleu, en fonction de ce que vous allez avoir comme compétence acquise, voire des fois 2 dés, soit des fois un point de vie, enfin bon bref. Soit vous allez pouvoir utiliser votre carte de butin pour faire en sorte que votre personnage acquiert une compétence cette fois-ci, à la place d'avoir des caractéristiques complémentaires, enfin des dés complémentaires. Donc typiquement, une compétence, ça peut être plein de choses, hein, ça peut être rejouer un tour, ça peut être relancer les dés que vous avez foirés, ça peut être transformer vos échecs, enfin relancer vos échecs, ça peut être plein de choses. Et ça peut aussi être en dernier recours des cartes qui vont vous permettre de faire leveler vos personnages. C'est-à-dire qu'en fait tous les persos ont le même niveau. On démarre tous au niveau 1. Et après, quand vous allez combattre des monstres, vous allez voir, il y a des petites iconographies avec des flammes. Et en fait, au bout de X flammes, vous allez pouvoir passer vos personnages au niveau 2. Et après, une fois que ce sera passé au niveau 2, vous allez, alors ça va entraîner des choses, des modifications dans le donjon, ça va, mais vous allez pouvoir avoir plus de compétences, parce que ça va être limité par rapport à vos fonctions, à vos bonhommes, à vos héros, forcément. Vous n'allez pas pouvoir être gros build alors que vous n'êtes que niveau 1, ça marche pas, vous pouvez pas avoir 6 compétences et 3 équipements. Vous allez être limité. Par exemple, niveau 1, ça va être une compétence, un équipement. Niveau 2, deux compétences, deux équipements, etc., etc. Donc, quand vous allez tuer des monstres, il faudra faire le choix de équiper, soit équiper vos personnages, soit leur faire apprendre des compétences, soit investir ce butin dans le leveling, l'XP de vos personnages. Une fois que vous aurez choisi, bah, vous passerez la porte que vous venez d'ouvrir, vous continuerez dans le couloir, vous arrivez au bout, vous rajouterez une carte face recto sur les trois qui vont rester, donc ça fera toujours quatre cartes possibles à choisir, et ça va se passer comme ça jusqu'à la défausse, parce qu'il y a toute une mécanique, mais ça c'est pareil, vous verrez en jouant. Il y a toute une mécanique, en fait, les cartes que vous avez, la pioche que vous avez, comme je vous ai dit, en fait, fait les monstres, mais aussi fait chronomètre. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous allez explorer ces deux cartes que vous allez défausser, en fonction des monstres que vous allez battre ou pas, vous aurez peut-être des malus de cartes à défausser. Et une fois arrivé à la fin de la pile de pioches, en fait, vous allez avoir un escalier qui vous dit je descends au niveau 2 du donjon. Il y a trois niveaux à chaque fois en tout, plus la salle du boss. Mais quand vous descendez dans le donjon, bah, les monstres deviennent plus forts. Comment ça c'est stimulé? Bah, en fait, vous avez une carte à côté dont je ne vous ai pas parlé, qui est la carte niveau, la carte donjon. Et cette carte, en fait, va aussi leveler. Il faudra aussi mettre des dés sur cette carte-là pour contrer le level du donjon, en fait. Donc c'est assez facile, même si ça peut paraître brouillon dans ce que je vous explique, c'est assez facile à jouer. Suffit d'un ou deux tours pour avoir vite compris les mécaniques. C'est sympa, par contre, c'est un jeu qui est ultra dur. Je vous préviens tout de suite.
Bah ça a l'air.
Ah ouais, non, non, c'est très 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 compliqué de survivre. C'est surtout ça, parce qu'en fait, il y a toujours comment dire le choix de dire est-ce que je m'équipe, parce que les cartes qui vont être puissantes, elles vont être puissantes dans tous les niveaux en fait. C'est-à-dire qu'elles vont faire rapporter beaucoup d'XP, elles vont avoir des compétences fumées en général, et elles vont pouvoir vous faire gagner des fois 2 ou 3 dés sur votre personnage. Mais vous pourrez faire que un des trois choix. Donc est-ce que je fais leveler, sachant qu'on est presque à la fin
Ouais.
peut-être du premier donjon? Est-ce que je mets une compétence? Ah bah mais je peux pas l'utiliser en compétence parce que je suis que niveau 2 et j'ai déjà toutes mes
Ouais,
compétences sur mon perso.
ça rappelle beaucoup le principe des roguelites en fait.
C'est un peu ça. Et ça marche par contre très très bien. Je vous dis, c'est assez rapide. Et dans la partie que, enfin dans le jeu que moi je vous présente, qui est la Forêt des Ombres, c'est une extension du jeu de base qui s'appelle One Deck Dungeon tout court. Mais c'est aussi un standalone. C'est-à-dire que vous pouvez jouer que avec la Forêt des Ombres. Et dans la Forêt des Ombres, ils ont rajouté deux choses. Ils ont rajouté le poison, dont je vous ai pas parlé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des monstres, quand vous allez les affronter, potentiellement ils vont pouvoir vous mettre un marqueur poison. Ce marqueur, faudra jeter des dés à chaque fois que vous allez activer votre personnage, pour savoir est-ce que vous résistez au poison, et si vous résistez, vous défaussez ce marqueur. Et si vous résistez pas, en fait, bah le poison se dissout, enfin se dilue dans votre corps, et vous prenez des dégâts en conséquence du résultat, en fait. Et vous avez aussi un mode campagne qui est intégré, c'est-à-dire que quand vous allez faire plusieurs parties, bah en fait, vous allez pouvoir garder du stuff, garder des compétences, etc., et faire leveler vos persos un peu comme une campagne de Donjons et Dragons, entre guillemets, en beaucoup plus simplifié. Mais ça s'était rajouté. Donc, je vous dis, le jeu de base, c'est une petite boîte, hein, ça prend vraiment pas de place. Ça vaut quand même 25 euros, je crois, mais il y a beaucoup, beaucoup de dés, beaucoup, beaucoup de cartes. Donc voilà. Et donc, un ou deux. Si vous achetez deux boîtes, vous pouvez jouer jusqu'à quatre. Donc ça peut être déjà plus intéressant. Et après, dans les stéréotypes, c'est quand même du standard avec le magicien, le guerrier, l'archer, le voleur. Enfin bon, voilà, il n'y a rien de. Rien d'innovant là-dedans, mais malgré tout, ça fonctionne, ça fait le taf, et pour y avoir joué plusieurs fois, c'est vraiment sympa. Mais comme je dis, c'est vraiment compliqué de gagner et d'arriver au bout, parce que quand vous avez les boss, il y a des mécaniques de boss qui sont vraiment très compliquées. J'en ai pas parlé, je vous laisserai découvrir ça, mais c'est les boss en général, vous avez un tour, voire deux pour le tuer, parce qu'après c'est game over en fait, de toute façon.
Ah ouais,
Donc
ok.
ah ouais, non, en fait, sur le premier boss que moi j'avais affronté de mémoire. En fait, c'est un boss qui te dit de toute façon, si t'es pas capable de lui faire plus de X dés de dégâts, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des sur les cases, je vous ai pas tout décrit, mais il y a des boucliers, des points de vie, des machins, enfin bon, bref. Si vous n'êtes pas capable sur le tour de jeu de lui faire X points de dégâts, bah, en fait, il prend pas de dégâts du tout. Sauf que lui, il vous enlève 2 dés ou 3 dés tous les tours, quoi qu'il arrive.
D'accord.
Ce qui fait que rapidement, oui, tu te retrouves avec pas assez de dés pour lui faire des dégâts, en fait.
Ouais.
Donc, faut arriver au boss suffisamment stuffé, avec des compétences pour jeter des sauts de dés, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, et pouvoir remplir les cases, machin, pour lui dire, bah, attends, je le défonce le plus vite possible pour pouvoir gagner. Mais ouais, je vous dis, en 1 ou 2 tours, alors après, il y a plein de boss, hein, mais je ne les ai pas tous vus. Je sais que c'est assez compliqué.
La part de chance aussi, est-ce que c'est pas trop frustrant, en fait, par rapport au fait que ce soit des dés?
C'est pas frustrant,
je pense à Arnaud,
je l'ai
pas
ressenti.
Oui, je pensais à moi-même aussi.
Alors en fait, il y a toujours une part de d'aléatoire et de random, mais c'est pas frustrant. Enfin, moi, je l'ai pas ressenti dans le sens où il y a quand même. Enfin, tu arrives à un moment donné où tu jettes quand même suffisamment de dés pour faire en sorte que même si tu as des échecs, tu continues d'avancer dans le donjon. Okay, surtout quand tu joues à au moins 2 personnages.
Ouais.
Et en fait, les valeurs, elles sont toujours en général. Là, je vais reprendre le jeu vite fait, parce que je l'ai sous la main. Tu vois, je vais avoir des créatures. Ouais, ça va être 3, 4, 4, 6. Alors 10, alors, c'est pareil, il y a des cases qui vont te sauver de ce côté frustration. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des cases où tu ne pourras mettre, donc les carrés, tu ne pourras mettre qu'un seul dé à l'intérieur de la valeur ou supérieur à cette même valeur. Et par contre, il y aura des cases, des fois, qui sont rectangulaires. Et dans les cases rectangulaires, en fait, tu as aussi des valeurs avec des couleurs. Mais là, tu peux mettre autant de dés que tu veux pour atteindre le total demandé par la case, en fait. Tu vois. Donc, tu n'as jamais des dés qui servent vraiment à rien. Alors oui, tu as des dés, des fois, où tu les mets, tu fais, bon, bah, effectivement, il ne me reste plus qu'un 2, je ne sais pas quoi en faire. Bon, bah, tant pis. Mais en fait, au début, tu vas acheter, en général, c'est 4 dés minimum par personnage, sachant qu'il t'en faut il t'en faut 6 pour tuer un monstre, en général. Mais quand tu ne joues pas tout seul, bah, tu jettes déjà 8 dés. Dès que tu prends des compétences, tu rajoutes à chaque personnage au moins 2 à 4 dés, plus tes compétences, plus, toi, en fait, rapidement, tu jettes vraiment des sauts de dés. Ouais. Et en fait, il n'y a pas vraiment de côté frustrant. Toi, les premiers petits monstres, c'est 4 sur un dé bleu, 2, 2 et 2, donc 3 fois 2 sur un dé jaune, 5 sur un dé jaune et 6 sur un dé bleu. Donc en fait, si t'as les bonnes couleurs, t'as avec un 2, c'est quand même pas de bol de mettre que des 1.
Ouais.
Donc le côté frustrant de l'aléatoire du jet de dés,
il y en a qui sont comme
il
ça.
Il peut être là, mais je l'ai pas, voilà, mais moi je l'ai pas ressenti en fait.
Ça va, hein? Oui, je sais qui tu vises d'abord. Moi j'avais une question, parce que t'as l'air, t'as l'air d'être compliqué, etc. En plus, toi, je vois 2 joueurs, mais c'est quand même mis aussi, tu peux jouer tout seul. Est-ce que tu as essayé de jouer tout seul? Est-ce que c'est même envisageable de jouer tout seul?
Tu peux jouer tout seul. Tu peux jouer tout seul parce qu'en fait, quand tu joues tout seul,
t'as quand même une chance de victoire.
Non, parce que t'as des sortes. Alors attends, je vais reprendre, parce que je sais plus si tu joues les deux héros ou pas, par contre, c'est ça le truc. Je vais te dire ça tout de suite. Parce que je sais plus si t'es un modificateur de donjon ou si tu joues obligatoirement avec deux héros. Je te dis ça, si tu me permets le temps juste et de combler avec le fait que je cherche. tac. Alors,
parce que oui, il y en a qui sont poissarodés, on le sait, c'est connu. voilà.
Toi, c'est ça, c'est le héros qui change. C'est-à-dire qu'en fait, sur le héros, quand tu joues à deux, en fait, le héros a deux faces. Un côté 2 joueurs, un côté 1 joueur. Et quand tu joues à 2, en fait, t'as moins de dés sur ton héros. Et quand tu joues tout seul, t'as 2 fois plus de dés, en gros, pour la faire simple.
D'accord, ok.
Donc, ce qui fait que...
t'as quand même pas les différentes variantes. C'est-à-dire que si tu prends le guerrier, c'est pas pareil au niveau du nombre de dés ou l'adaptabilité des trucs, c'est plus compliqué, quoi.
Attends, je vais retrouver le truc. C'était où ça? Alors, attends, je cherche les cartes de héros, je vais te le donner. Elles sont là, voilà. Par exemple, si tu prends, alors t'as, je vais te dire les classes, parce que si tu veux savoir exactement qu'est-ce que j'ai comme classe, tu as chasseresse, tueuse, donc chasseresse c'est le chasseur, hein, voilà, on va rien inventer, tueuse c'est le voleur, alchimiste c'est le pseudomage, sentinelle c'est le guerrier, et druide, druide, je sais pas comment dire, c'est le mage, mais un peu baston quand même, quoi. Et en fait, quand tu joues à deux, par exemple, on va prendre le guerrier, donc la sentinelle, quand tu joues à deux, le guerrier a 2 bases, 3 dés jaunes, 1 dé bleu et 3 points de vie. D'accord. Quand tu joues tout seul, il a 4 dés jaunes, 1 dé violet, 2 dés bleus et 5 points de vie.
Ok, ouais, il est ok.
En fait, il est plus fort parce que tu joues tout seul.
Ouais.
Donc voilà. Après, tu as les capacités qui peuvent changer aussi. Donc, mais il y a plein de trucs hein, dont je vous ai pas parlé parce qu'il y a plein de petites règles et ça serait chiant de rentrer dedans en explication. Je vous laisserai les découvrir.
Ok.
Mais il y a plein de petites mécaniques qui font, vous voyez, dans les compétences, ce que je vous disais, c'était par exemple capacité héroïque du guerrier, par exemple, ça va être lancer votre dé stocké, donc on pourra stocker les dés. Et si tu fais un résultat, en fait, bah, tu peux remplacer n'importe quel dé de n'importe quelle couleur, en fait. Tu vois? T'as
Okay.
les dés noirs qui s'appellent les dés héroïques et en fait tu peux les stocker avec le guerrier.
Ok,
Quand tu le
oui.
stockes, il te dit bah voilà, tu jettes ça te fait 5, bah tu peux mettre 5 sur n'importe quelle couleur de dés en fait, c'est pas gênant. C'est un dé magique, un dé joker.
Ok. Bon.
Avez-vous d'autres questions, messieurs?
Non, pas du tout. Pas
Non,
pour
non,
moi.
non.
Non, c'est bon.
Donc
Ok.
c'est chez Nuts, l'éditeur, comme les noisettes.
Et
Et
ça
je crois que ça
coûte.
vaut, oui, 25, 25,
C'est
27
ça.
euros, un truc comme ça, je crois.
26,50 € à partir de
14 ans et
14 ans.
plus.
Ok. Donc on
Alors,
est pour
14
des
ans et
grands.
plus, parce que
Oui, bah c'est complexe.
c'est, ouais, les règles peuvent pas être compliquées. Il y a beaucoup de choses à lire des fois sur les cartes, c'est pour ça.
Ok.
Mais si, enfin, jouer avec ta grande ou même Arnaud avec tes enfants, alors le petit, ça peut-être, ouais, si, ça doit le faire quand même. Mais ça doit marcher. Hein. Même s'ils ont
Ouais,
pas
moi
14
je sais
ans,
pas.
ça marche
Ouais.
en fait, quoi.
Ouais, moi je le
Ok.
tenterai pas tout de suite. Parce qu'elle est pas trop dans le délire non plus.
C'est plus, voilà. C'est ça, c'est
Ok.
plus l'affinité avec le côté Donjons et Dragons, quoi.
Donjon, ouais.
Parce que c'est vraiment
Donc,
du classique de chez classique, hein, c'est de l'Heroic
ouais.
Fantasy, tout ce qu'il y a de plus simple.
Donc, récapitulons, on vous a conseillé donc la Recall Box si vous êtes en mal de partager des jeux rétro avec vos enfants ou One Deck Dungeon si vous voulez jouer avec des dés, si toutefois il est disponible à cette heure-là. Tu auras remarqué à quel point je me suis tenu de te
Non, tu
couper.
t'es pas tenu, j'ai vu
Si,
toutes tes blagues de
je
merde
sais,
passer en...
mais je ne t'ai pas coupé pour faire toutes ces blagues. Voilà. Ah, parce que c'était très très tentant de faire des blagues avec Dédé. Donc, eh bien, passons rapidement donc au coin des parents pour savoir qu'est-ce qu'on fait en ce moment. Qui veut commencer? Qui veut
Bah Arnaud, on
commencer?
l'a pas entendu quasiment.
Oui, donc oui, vas-y, Arnaud, Arnaud, dis-nous,
On
qu'est-ce que
m'écoute
tu fais en
plus, de
ce
toute
moment,
façon, je peux
Arnaud?
même plus parler. Et ben moi, en fait, j'ai pas inventé grand-chose là. On s'est juste abonné à Crunchyroll. Alors ça peut paraître con comme
Mais
ça.
Arnaud, c'est quoi donc
Oui.
Crunchyroll?
Ben c'est ça. Alors Crunchyroll, en fait, c'est un peu comme Netflix, mais c'est spécialisé et uniquement sur les animés de manière générale. Et donc on a vu ça. On a fait, bah tiens, on va quand même tenter. On a fait un essai. Je sais pas, on avait genre 15 jours gratuits, un truc de genre. On a testé ça. Et puis, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a ouvert la boîte de Pandore. Et puis, en fait, je pense que c'est un des meilleurs investissements qu'on a pu faire au niveau de la famille dans les termes d'abonnement, à tel point qu'on se dit, bah, on va peut-être retirer d'autres abonnements du coup. Parce que, typiquement, je pense que c'est le truc que finalement tout le monde regarde à la maison, soit ensemble, parce qu'on a des parties ensemble où on regarde les mêmes choses. Et puis on s'attend mutuellement là pour regarder l'épisode ensemble le samedi et le dimanche. Et puis sinon c'est free for all la semaine sur les écrans à droite à gauche. Donc Crunchyroll, bah Crunchyroll, c'est ça. Je peux pas dire grand chose d'autre que c'est finalement un Netflix, mais spécialisé sur les animés où on retrouve des vieux choses, des vieilles choses. J'étais très étonné parce que pour ça j'ai pas pris l'abonnement tout de suite. J'ai d'abord voulu regarder ce qu'ils avaient en catalogue via l'abonnement gratuit. Et donc, ça, j'ai retrouvé des Witch Hunter Robin, j'ai retrouvé des Chrono Crusade, j'ai trouvé Noir, j'ai trouvé... Alors, j'ai pas trouvé Vision d'Escaflowne, parce que
Ah.
c'est ça, mais il y a les
Oui,
Évangélions.
bah il y a pas les Senseiya.
Alors, si, il y a les Senseiya.
Pas
Il y a
tous.
tout, les Senseiya, il y a le
Non.
Senseiya de... Ah non, il n'y a peut-être pas celui de la partie d'Asgard, mais ou alors les derniers. Parce que j'ai vu les Senseiya, j'ai vu les Senseiya... comment il s'appelle là?
Hadès.
Lost Canvas.
Ouais, Hadès.
Peut-être la partie Hades qui n'y a pas.
Hadès,
J'ai pas
elle y est pas non
vérifié.
plus. Hadès,
Elle n'y est
elle y
pas
est pas non
encore,
plus.
peut-être, ouais.
Non,
Mais...
il y a que la première partie jusqu'au des 12 temples. De
C'est
mémoire,
ça, parce
enfin,
qu'après,
voilà.
il y a quand même les autres qui sont sortis, c'est-à-dire, je crois, Saint Seiya Omega, je
Non,
crois.
mais non, ils
Et puis, il y
n'existent
a
pas, eux.
aussi... Non, bah écoute, ils sont sortis, ils sont dessus. Après, on peut ne pas les apprécier, je suis à peu près du même avis, mais ils y sont quand même. Moi, j'ai regardé par exemple le Saint Seiya avec les 12 chevaliers d'or. Ce qui est très marrant parce qu'en fait, cette partie-là, quand les 12 chevaliers d'or sont en Asgard, c'est très marrant parce qu'en fait, c'est en même temps qu'il y a le parti Hades. Parce que le pitch, c'est. Enfin, je fais une divergence, mais le pitch, c'est quand ils sont sur le mur devant des lamentations, ouais. Ils se sacrifient tous pour ouvrir, pour que les bons se passent. Et donc, du coup, en fait, bah, ils sont réincarnés en Asgard, et puis il y a toute une autre partie à ce moment-là. Et donc, j'ai regardé ça, et je combien d'épisodes il y a. C'est très, très sympa. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai supposé qu'il y avait Asgard, qu'il y avait Hades.
D'accord.
Enfin, bref. Mais. Et donc, j'ai trouvé. Enfin, je trouve ça, franchement, assez impressionnant, de manière générale. Donc, c'est vrai qu'on regarde. Plusieurs dessins animés ensemble. Alors, il y a pour du plus jeune et pour du plus vieux. J'ai pas trouvé, par exemple, Captain Tsubasa. Mm-hmm. J'ai pas trouvé ça. Par contre, j'ai trouvé d'autres vieux trucs là. C'est pour ça que c'est assez. Il y a pas tout et n'importe quoi, mais le catalogue est quand même assez grand. Petit bémol, quand on en discutait un peu en off, c'est que la recherche est pas géniale. Mm-hmm. Il y a ce qui est très récent. Et puis là, après, tu peux aller dans par genre. Et puis là, tu as une grande liste, mais c'est pas très très pratique.
Ouais.
Ou sinon, il faut vraiment taper directement ce qu'on veut, et puis à la recherche, et puis tu peux tomber dessus ou pas.
Moi, c'est ce que je reprochais avec Crunchyroll, deux choses. Parce que j'ai juste fait la version d'essai. C'est d'une part, effectivement, quand tu arrives là-dedans et que tu as lâché les animés depuis des années, voilà, tu sais pas quoi regarder, tu sais pas ce qui est bien, tu sais pas ce qui est nul, tu sais pas. Voilà, et donc t'as
il suffit de demander aux copains, il n'y a pas d'excuses.
Ouais, non, mais moi, enfin voilà, moi je veux des trucs qui me plaisent, mes goûts, etc. Et j'étais totalement pourri.
Ah oui.
Mais la deuxième chose, c'est que il y a pas vraiment, enfin il y a très peu de contrôle. Moi qui consomme beaucoup de Netflix, j'ai un compte pour chaque membre de la famille avec des restrictions, avec des choses que je peux bannir du compte pour pas qu'ils y aient accès, même si ça rentre dans la tranche d'âge, etc. Bref, et ça, je ne le retrouve pas, quoi.
Il n'y a pas beaucoup de contrôle.
Et donc, quand j'ai fait mon essai et que je me suis retrouvé à regarder un truc très sympa, mais vraiment très limite au niveau des mœurs. J'avais pas envie que mes gamins ils aient accès à ça, quoi.
Non, c'est clair. Je peux comprendre. Après, c'est vrai que nous, on regarde. On contrôle ce que les enfants regardent, mais c'est vrai qu'on est obligé de faire attention à qu'est-ce que t'as lancé, etc. Qu'est-ce que tu regardes. On peut pas le prémunir d'avance. Ouais. Mais et c'est vrai que c'est ça qui est un peu embêtant. Mais c'est vrai que par contre, au niveau du catalogue, c'est assez impressionnant. Toi, puis c'est ça qui est aussi assez hallucinant au Québec. Pour le coup, c'est vraiment spécifique au Québec. C'est que, alors Québec, ils n'arrêtent pas de vouloir défendre la langue française, etc. Et puis t'as Netflix, hein, mm-hmm. Qui est au Québec. Et puis tu veux lancer un Naruto. Le Naruto, il n'y a pas de sous-titres français. Il n'y a pas de sous-titres français ou il n'y a pas de version française.
D'accord.
Tu fais, mais attends, parce que je suis à peu près certain que Naruto sur Netflix en France, tu dois avoir du français.
Ouais, mais je déteste la version française de.
Non, non, alors on est d'accord, nous on regarde en VO, mais au moins tu as les sous-titres français.
Ouais, ouais.
Et ici, tu n'as même pas les sous-titres français. Donc après, alors du coup, ça leur fait apprendre l'anglais, mais c'est vrai que ça rebute au début, tu te retrouves avec une VO sous-titrée anglais. Ça peut, pour mon plus jeune, ça peut être un peu compliqué, quoi. Et alors que sur Food Wars, sur Food Wars, sur Crunchyroll,
j'y crois pas trop, quoi, mais bon.
sur Crunchyroll, du coup, tu as plus d'options. Alors, je dis pas qu'il y a à chaque fois toutes les possibilités, de temps en temps, il va pas y avoir le français également, mais il y a en tout cas de notre côté plus de français que sur Netflix, qui est quand même assez impressionnant, quand même, en soi. Donc c'est vrai que c'est ça, mais donc c'est pour ça que on a pu regarder la fin de Food Wars, on a pu regarder pas mal de choses qui ne passent sur non Netflix. Alors peut-être qu'en France vous avez un Netflix qui est beaucoup plus fourni,
oui,
mais nous clairement pas, quoi. Il manque plein de choses, ça va pas forcément toujours jusqu'au bout, où t'as les saisons d'après, ouais, alors c'est... que sur Food Wars elles y sont. Elles sont presque en temps réel.
Je sais pas ce que t'as avec Food Wars, hein, mais.
Non, si, je sais pas pourquoi je dis Food Wars. Sur Crunchyroll.
Je pense savoir ce qu'il a avec Food Wars, mais. Enfin.
Non, c'est parce qu'on a fini Food Wars il y a pas longtemps et j'étais content. Mais. parce que pour le coup, Food Wars, on l'a regardé sur peut-être 5 ans.
Ouais. Ah ouais, quand même, ouais.
Et c'est quand on a un Puma de Crunchyroll, on a fait, ah non, mais il y est dessus, on va pouvoir enfin voir la fin. Et donc, du coup, c'est ça, on a regardé à la fin il n'y a pas longtemps.
Okay.
Donc, Crunchyroll, à la base, et non pas Food Wars. Mais enfin, donc voilà, donc c'est un des, okay. des meilleurs d'ailleurs, investissements. Puis pour la faire quoi, c'est vrai que plus notre ado, pour nous donner des conseils, ils disaient, bah tiens, moi j'ai commencé à regarder ça, c'est super sympa. Alors, c'est comme ça qu'on a découvert Spy Family. C'est comme ça qu'on a découvert
Food Wars.
Alors dans Food Wars, ça on connaissait avant. non, c'est un autre qui nous avait conseillé aussi avec Spy Family, Jujutsu Kaisen.
Ouais, ok.
Donc voilà, donc c'est ça. Moi je trouve ça franchement sympa. Donc Crunchyroll et non pas Food Wars.
et
ça permet de, voilà, d'avoir des belles découvertes.
Et Jérôme, tu as trouvé un truc toi qui est vachement bien sur Crunchyroll.
Exactement, comme ça, ça permet d'enchaîner avec la recommandation d'Arnaud. Exactement. Quelle transition, mais quel professionnel, ouais, donc moi sur Crunchyroll, en fait, alors c'est venu, c'est pareil par ma fille du coup, qui a 12 ans, pour rappel, et en fait, elle avait lu tous les mangas qui s'appellent Les Carnets de l'Apothicaire, et on l'a vu sur Crunchyroll, que ça c'était diffusé en animé. Donc on s'est mis à regarder ça, et franchement, j'ai trouvé ça vachement bien. Donc, en gros, l'histoire, pour que ça mette un petit peu l'eau à la bouche, pour que ça vous appâte, on va suivre en fait une jeune fille qui a 13 ou 14 ans, je crois, dans l'animé et dans le manga, qui s'appelle Mao Mao, et qui est en fait la fille adoptive d'un apothicaire en Chine. Donc, ça se passe à l'époque de la Chine médiévale. Alors, je ne sais pas quelle ère, ne me demandez pas, c'est la Chine médiévale, voilà. Et en fait, elle va se faire enlever par des brigands, parce qu'à cette époque-là, visiblement, c'était monnaie courante. Et elle va se faire vendre au palais impérial en tant que servante de base. Et en fait, là va commencer son histoire, parce que rapidement, elle va se démarquer dans le sens où, contrairement à beaucoup d'autres filles qui ont été capturées et vendues, étant... La fille adoptive d'un apothicaire, elle est instruite. Donc elle sait lire, elle connaît les plantes, elle connaît un peu la médecine. Enfin, elle a plein de compétences que toutes les autres servantes de base, en fait, de basse extraction, n'ont pas nécessairement. Et elle va se faire repérer avec ça, et du coup, elle va intégrer ce qu'ils appellent la cour intérieure, donc là où il y a toutes les courtisanes de l'empereur. Et ben en fait, elle va au fil de l'eau. Alors, pas monter les échelons, mais prendre une certaine importance dans la cour intérieure, parce qu'elle va être capable de résoudre des problématiques et des énigmes de par son sens de la déduction et de par ses connaissances, en fait. Et tout l'animé raconte ça, de comment, en fait, elle passe d'une étape à une autre. Et j'ai trouvé ça vachement bien, parce que contrairement à d'habitude, en fait, c'est pas du Naruto, par exemple, avec un petit garçon qui se fait des copains et qui devient de plus en plus fort et qui peut détruire la Terre. Donc on n'est pas dans du shonen assez classique, on est vraiment sur un truc d'enquête, un truc de réflexion, un truc en même temps un petit peu shoujo avec des petites amourettes à droite à gauche, mais des choses qui sont pas avouées. Enfin, j'ai trouvé ça très, très reposant, très rafraîchissant, un peu comme Spy Family, mais dans un autre contexte, du coup. Spy Family, on est plus sur de la comédie. Là, c'est vraiment des petites histoires toutes simples et ça cesse de regarder et on cesse d'entraîner par cette Mao Mao qui a des petits travers parce qu'elle aime bien expérimenter, mais expérimenter sur elle-même, en fait. Genre, elle aime bien goûter c'est les ça. Poisons pour voir ce que ça fait, pour pouvoir les expliquer. Donc, il y a un côté un peu pervers comme ça, mais c'est rigolo, ça rentre dans le personnage, en fait. Et franchement, j'aime beaucoup... Le trait, il y a beaucoup d'humour aussi, comme dans Spy Family, avec des différents degrés. C'est pas de l'humour potache, en fait, c'est vraiment des trucs un petit peu sympas. Et j'ai trouvé ça très très bien. Je sais pas si Arnaud, tu as eu le temps de le regarder, toi. Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, tu as dit oui.
J'ai tout regardé. J'ai tout regardé ce qui est sorti là aujourd'hui. Là, c'est la saison 1. Et oui, moi, je rebondis là-dessus. On est sur. En plus, je trouve le trait est très joli. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez marrant parce qu'on va se retrouver sur des scènes un peu classiques de discussion autour d'un bureau, d'un truc très. En plus, c'est le corps de l'empereur, donc tu sais, il y a toute une étiquette, il ne faut pas faire de faux pas, etc. Donc tout est très conservé. Puis en même temps, tu vas avoir des petits instants où elle va se retrouver seule et elle va faire n'importe quoi, notamment avec son petit côté maso. Et puis de temps en temps, tu vas avoir des scènes qui vont être franchement très très jolies, très colorées. avec des contrastes qui sont franchement jolis. Et je trouve déjà, c'est ça, la beauté du trait et la beauté des couleurs est franchement assez impressionnante. Et puis, c'est ça, moi j'aime bien aussi le petit côté enquête où elle prend en fait, un peu à la Sherlock Holmes, en fait, des éléments qui paraissent, qui passent complètement transparent pour les autres. Et puis, qu'elle va relever, et elle va les assembler et puis elle va finir par résoudre l'enquête, ce genre de choses. Et c'est des enquêtes dans, encore une fois, dans une ambiance de cour impériale, quoi. Donc, tu sais, même quand elle trouve le coupable, elle peut pas aller dire, hey, c'est lui le coupable, parce que, tu sais, si la personne a plus de rang.
Il y a tout un protocole.
C'est ça, il y a tout un protocole, elle risque de se faire défoncer. Donc voilà. Donc, je trouve que c'est franchement bien fait. C'est ça. C'est, okay. Moi, j'aime beaucoup le truc. Et puis, pour rajouter un peu aussi au Crunchyroll, donc, pour les vieux que nous sommes versus les jeunes que nos enfants sont, en fait, c'est marrant parce que moi, j'ai leur fait revoir les plus vieux, enfin, comme je disais, noirs, donc, vous êtes les trucs, moi, j'ai adoré quand j'avais leur âge. Et puis, qu'eux vont venir voir en disant, mais c'est tout pourri, c'est tout vieux, c'est tout moche, quoi. Alors à chaque fois, je me retiens de les prendre par les pieds au plafond, mais c'est ça. Donc je pense que c'est aussi un moyen de partager les trucs que nous on a aimé dans notre jeunesse, ouais. Et leur faire découvrir des choses de genre.
Ok. Alors moi je vais aller très très vite puisque on est déjà très long. Moi je vais vous parler de Hogwarts Legacy puisque Arnaud t'en a déjà parlé dans Papa à quoi tu joues et donc j'attendais que le mode VR pointe le bout de son nez pour pouvoir l'essayer en VR. Alors c'est très sympa de faire Poudlard en VR, mais c'est pas très très jouable en fait en VR. donc j'ai attendu pour rien. Alors peut-être pas parce que je sais pas au fil des mises à jour comment le jeu s'est amélioré. Mais en tout cas, je passe un excellent moment parce que voilà, c'est un jeu un petit peu paquet de chips où je suis dans des chaussons quand j'y joue. Je me laisse porter et par l'aventure principale et par l'aventure secondaire. Et les enfants apprécient beaucoup l'histoire. Et donc, ils viennent me voir régulièrement. Et puis, ah bah tiens, t'en es là. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es à la deuxième épreuve, troisième épreuve, t'as réussi, t'es quel niveau, etc. etc. Et voilà, ça marche très bien. Je passe, enfin, par rapport à quand on avait parlé dans Papa, quoi, tu joues, je m'attendais à moins bien. Et en fait, je passe vraiment un très, 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 très bon moment. Et je ne me suis pas mis d'impératif de allez, il faut que je finisse, il faut que machin. Donc, quand j'ai envie de m'occuper de mes animaux, je m'occupe de mes animaux. Quand j'ai envie de faire la quête principale, je fais la quête principale, etc. etc. Et voilà, je passe vraiment un très très bon moment. Hogwarts Legacy sur à peu près toutes les plateformes. Voilà! c'est tout pour cette émission nouvelle mouture. Je pense qu'on va essayer de faire plus court pour celle du mois prochain. Là ça fait presque une heure et j'ai dit qu'on n'allait pas être trop long, donc je ne vais pas m'apesantir, je vais juste vous remercier d'avoir écouté cette émission. Si jamais vous voulez nous soutenir, ça se passe sur Patreon, donc patreon.com/papapodcast. Vous pouvez nous soutenir à hauteur de ce que vous voulez, si vous aimez ce qu'on fait, et même cette nouvelle version. N'oubliez pas de nous faire un retour si jamais vous le souhaitez. On se retrouve dans un mois et n'oubliez pas que jouer c'est bien, mais jouer en famille c'est toujours mieux. Ciao à toutes et à tous.
Ciao tout le monde.